Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Il y a une étude récente qui a été publiée dans le magazine scientifique de Lancet Oncology, donc relié au cancer, qui dit qu'il y a pas moins de 7000 cas de cancer dépistés au Canada en 2020 qui étaient attribuables à l'alcool. Donc, des spécialistes qui disent que dès le premier verre, le risque de cancer est accru dès la première consommation d'alcool. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une mise en garde qui serait apposée sur les produits alcoolisés pour prévenir tout le monde des dangers de l'alcool? On va parler de tout ça avec Geneviève Desautels, qui est directrice générale de l'organisme Éduque Alcool. Madame Desautels, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous avez été surprise quand vous avez pris connaissance de cette étude-là, ou ça ne fait que confirmer de l'information qu'on connaît déjà sur les dangers de l'alcool?
Effectivement, en fait, je ne suis pas surprise outre mesure du fait que nous, chez Éduque Alcool, ça fait depuis 2018 qu'on a publié, c'est sur le site Internet, donc un recensement des différentes études avec la collaboration du docteur Philippe Sautier, une unité dans le domaine. Là. Oui, il y a des risques à consommer de l'alcool par rapport à certains types de cancers particulièrement, qu'on parle du cancer de la bouche, du pharynx, œsophage, foie, larynx, pancréas, colon, rectum, prostate et le cancer du sein. Par contre,
bon, ça fait beaucoup,
alarmer les gens. Ouais, oui, ça, mais faut pas alarmer les gens parce que c'est un facteur de risque. Ça dépend évidemment, on n'est pas tous égaux face à l'alcool, hein. Ça dépend évidemment de facteurs génétiques, ça dépend de la quantité consommée, puis d'autres agents cancérigènes extérieurs, tels que par exemple le tabac ou l'alimentation ou autre. Il n'y a pas de cause. T'sais, on ne peut pas faire une cause à effet. Tu bois, tu vas avoir le cancer. C'est pas ça du tout. On dit que pour certains cancers, effectivement, les ingrédients de l'alcool peuvent faire augmenter le risque d'avoir les différents cancers que je nommais précédemment.
D'accord. Par contre, il y a aussi eu pendant plusieurs années cette espèce de mythologie, beaucoup autour du vin rouge, où on s'était fait dire, on appelait ça le paradoxe français, comment ça se fait que les Français qui consomment autant d'alcool sont en si bonne santé relativement, puis on avait dit, ben, c'est parce qu'il y a du polyphénol, puis toutes sortes d'affaires dans le vin rouge, donc que le vin rouge peut même aider à maintenir une bonne santé. Est-ce qu'il n'y a pas eu un danger à ce moment-là? Plein de gens qui se sont dit « Ah, oh, l'alcool, c'est bon pour la santé, la petite bouteille de vin, ça va me garder vieille, ça va me garder vieille et en santé. » Est-ce qu'il n'y a pas ce mythe-là aussi qu'il faut défaire, Madame Desautels?
Ben, en fait, je vous dirais qu'encore une fois, on a une autre publication qui est « Alcool et cœur », celle-là a été faite avec une autre sommité dans le domaine qui est docteur Martin Junot de l'Institut de cardiologie et qui vient mettre des nuances. En fait, hein, vous le savez, avec l'alcool comme avec beaucoup d'autres produits, tout est dans la nuance. Alors, dépendamment de notre condition physique à nous, de notre consommation, parce qu'évidemment, tout va augmenter en termes de risque lorsqu'on est dans l'abus, mais si on reste dans la fameuse modération, on a évidemment plus de chances d'aller chercher les bénéfices de l'un sans trop avoir les risques de l'autre. Mais encore faut-il, évidemment, être conscient puis avoir des saines habitudes de vie. C'est à ça que j'ai envie qu'on se ramène aujourd'hui. C'est la question de tout est dans la nuance, puis de garder des saines habitudes de vie, de pas tomber dans l'excès parce que ça a l'air que c'est bon pour le cœur, puis où j'en bois pas du tout parce que je vais attraper le cancer. Vous comprenez un peu là les deux extrêmes qui ne seraient pas, qui seraient pas souhaitables. Là.
Mais en même temps, il y a aussi des gens quand même qui disent dès le premier verre, il commence à y avoir un danger. Donc, pourquoi ne pas tout simplement mettre des étiquettes sur les bouteilles d'alcool, à tout le moins pour conscientiser les gens à ce danger potentiel-là? C'est-à-dire que au moins, on conscientiserait les gens que c'est prendre un verre de vin, acheter une bouteille d'alcool, c'est pas la même chose qu'acheter du jus de pruneau. Là, il y a quand même une différence parce que qu'on vit quand même dans une société qui banalise l'alcool, qui banalise la consommation d'alcool. Et aussi parce que on sait qu'il y a des endroits où ils avaient tenté de faire ça, d'imposer une étiquette qui serait sur l'alcool, et que c'est le lobby des vendeurs d'alcool qui a dit non, il faut pas faire ça. Donc, est-ce que les intérêts financiers doivent être plus importants que les intérêts de santé?
Ben moi, je vous dirais que pour parler avec des chercheurs régulièrement, hein, évidemment dans le cadre de mon travail à Éduc'alcool, que ça dépasse la question du lobby. C'est plutôt de qu'est-ce qu'on mettrait sur la fameuse étiquette. Parce que, comme je vous disais tantôt, les risques sont de tel pourcentage pour tel type de cancer, moins, puis ça dépend de combien de verres tu prends, puis ça dépend de ci, puis ça dépend de ça. Alors, l'étiquette va finir par être plus grande que la bouteille. Hein? Alors,
c'est très drôle.
Vous comprenez un peu l'histoire. Alors, moi, c'est ce que les scientifiques me disent, c'est, Geneviève, OK, c'est beaucoup plus simple à l'heure actuelle où en est la science par rapport à ça, de faire le lien de cause à effet, par exemple, avec le tabac, hein, parce que les études, d'une part, l'ont démontré vraiment de cause à effet, alors que ici, on est plus dans une association, on est plus dans le risque qui dépend fonction de. Alors, c'est là qu'un étiquetage pourrait, j'ai envie de dire, démoniser. Autant tantôt vous parliez de banaliser, il faut surtout pas aller là, mais je pense que d'aller démoniser ou d'aller même traumatiser à certains égards, ça serait pas vraiment mieux, là. Il faut rester encore une fois dans la nuance.
Parfait. Non, mais vous êtes, c'est très intéressant le parallèle que vous faites, en effet, avec la cigarette. Dans le cas de la cigarette, c'est facile de mettre « fumer tue ». Mais on peut pas nécessairement dire l'alcool tue. Le lien est pas aussi évident. Il me reste quelques instants pour vous parler, Madame Desautels, et je veux absolument parler, parce que là, on est en plein mois de janvier. Il y a beaucoup d'endroits à travers la planète où les gens font ce qu'on appelle le dry January, c'est-à-dire le mois de janvier à sec, des gens qui ne boivent pas pendant tout le mois de janvier. Ici au Québec, on a plus tendance à le faire en février, c'est le mois le plus court, donc on fait 28 jours sans alcool. Est-ce que c'est ce genre de comportement-là que vous encouragez à Éduc'alcool, ou vous préférez que les gens soient plutôt raisonnables à l'année longue plutôt que de s'abstenir pendant un mois?
Ben, en fait, le défi du 28 jours sans alcool, qui est une activité de financement pour la Maison Jean Lapointe, on peut pas être contre une activité de financement qui sert à aider puis à prévenir la surconsommation d'alcool. Hein. Ça c'est d'une part. Par contre, au niveau de la consommation, comme vous l'avez si bien dit, on va préférer que les gens soient plus modérés toute l'année que de dire comme le régime alimentaire, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé de dire, je vais essayer de faire attention, je vais manger moins de frites, moins de chips. Puis là, juste avant, j'en mange plein. Puis, juste après, j'en mange plein aussi. J'en mange plus. Alors, on appelle ça l'effet de rebond en science, et on l'observe plus souvent qu'autrement, là, quand les gens arrête d'un coup, là. Alors, vaut mieux dire, encore une fois, je reviens aux saines habitudes de vie avec les normes de consommation à faible risque. Encore une fois, on n'a pas dit les normes de consommation sans risque, là. On a dit les normes de consommation à faible risque, qui sont deux verres par jour pour les femmes, 3 jours pour les hommes. Et on ne boit pas tous les jours. Alors, dans le fond, notre mois sans alcool, si on le fait à chaque semaine, en faisant une ou deux journées sans consommer d'alcool, bien, on se crée une routine, des rituels de vie qui sont davantage privilégiés par la science, encore une fois. C'est pas une question d'éducation ou un autre organisme. C'est une question de, nous, on se base sur la science, puis on a le privilège de pouvoir travailler avec des chercheurs.
D'accord. Ben écoutez, ça a été extrêmement clair, et pour les liens reliés au cancer, et pour le sorte de d'excès suivi d'une période de restriction, suivi d'une période d'excès. Ça a été très clair. C'est un plaisir de vous parler. C'est la première fois qu'on se parle, Madame Desautels, mais je sens que c'est pas la dernière fois. Je rappelle que vous êtes directrice générale d'Éduc'alcool. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui.
Merci à vous, puis au plaisir.
Au plaisir. Merci. C'est la fin de l'émission. Je voudrais remercier Jean-François Paquet, qui, lui, est notre réalisateur, metteur en onde, et il ne faut pas le consommer avec modération. Jean-François, là, c'est un gars extraordinaire, donc il n'y a pas de modération à avoir avec ses multiples talents. Je voudrais remercier également un jeune journaliste qui est stagiaire avec nous, Julien Boutillier, qui nous donne un coup de main absolument fabuleux à la recherche. Florence Lamoureux, Maude Boutet et Luc Fortin aussi à la recherche. Merci beaucoup à vous d'avoir été là et on se retrouve sans faute demain.